Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Quand vous regardez les nouvelles à la télé, que vous prenez vos nouvelles à la radio, que vous lisez les nouvelles dans le journal et que vous voyez écrit ou que vous entendez escalade du conflit israélo-palestinien, tir de roquettes, émeute, ben ça vous paraît peut-être loin, mais quand on est sur le terrain, c'est l'horreur, c'est le drame. Je voulais absolument parler à quelqu'un qui vit ça au quotidien là-bas en Israël. Je vous propose donc qu'on rejoigne tout de suite Myriam Azoghi Alb-Wax. Elle est à Ra'anana, c'est dans le centre du pays, pas loin de Tel Aviv. Madame Azoghi Alb-Wax, bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour.
Myriam, première question, comment allez-vous?
Écoutez, ça va, j'ai connu des meilleurs moments, je pense, dans ma vie. Mais ça va, très fatiguée, c'est tout.
Très fatiguée, bon. Je vous ai écrit hier soir par Facebook pour vous demander de vos nouvelles et vous demander si vous accepteriez de venir nous parler. Et à ce moment-là, on était en pleine nuit en Israël et vous m'avez écrit « Écoutez, Sophie, je suis dans une pièce abri de la maison avec mon mari et mes trois filles. Vous étiez en plein bombardement à ce moment-là? »
Il y avait une alerte qui avait résonné dans notre région, oui absolument. Et quand il y a ces alertes, et ben on sait pas où ça va tomber exactement, nous civils. On sait juste que s'il y a une alerte, ça veut dire que ça risque de tomber à proximité. Et donc à ce moment-là, on a plusieurs options, soit on a une chambre comme on en a une nous ici heureusement dans notre appartement qui est une chambre blindée, donc une chambre abri. Soit on va dans les escaliers, soit on va dans des abris qui sont soit dans les sous-sols des immeubles ou dans la rue. Il y a plusieurs abris, les abris publics. Qui sont ouverts en ce moment, évidemment, puisqu'on est en période d'alerte. Et donc, il faut aller s'abriter immédiatement parce que, on ne sait pas où ça va tomber. On espère toujours, évidemment, qu'on a le dôme de fer qui va intercepter ces roquettes. Mais voilà, la consigne, c'est on s'enferme et on s'abrite.
Expliquez à tous les gens qui nous écoutent ce qu'est le dôme de fer dont s'est doté Israël.
Alors, le dôme de fer, c'est une invention absolument incroyable parce qu'elle nous sauve. Je veux dire, aujourd'hui, je vous parlerai pas et il y aurait pas grand monde qui pourrait vous parler si on n'avait pas le dôme de fer. C'est en fait je suis pas très technique, hein, donc ça va être vraiment très...
Mais expliquez-le dans vos mots. Oui, expliquez-le dans vos mots.
Voilà. En fait, c'est un système antimissile. C'est un système qui permet d'intercepter les roquettes qui tombent et qui les explose en l'air. Donc, c'est-à-dire qu'on va entendre toujours deux booms. On va entendre le boom de la roquette et le boom de la roquette qui s'est fait exploser par le dôme de fer. Et il faut savoir que si on n'avait pas ce dôme de fer, sachant le nombre de roquettes qui sont tombées depuis ces derniers jours sur tout Israël, alors bon, on a quand même des morts, hein, faut pas. Je sais que les informations de notre côté ne passent pas forcément très très bien à l'étranger, on a quand même aussi des morts, et puis les roquettes, elles ne distinguent pas selon que les civils soient juifs, musulmans, chrétiens, athées, druzes ou je ne sais pas encore, et donc il y a aussi des morts musulmans de notre côté, des bédouins aussi qui ont été tués, et puis hier il y a eu un petit enfant de 5 ans qui a été assassiné. Donc voilà, c'est le dôme de fer, c'est notre protection, parce que vu le nombre de roquettes, là, c'est une pluie de roquettes quoi, et on ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont arriver. On aurait beaucoup 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 plus de malheurs dans notre pays. Donc voilà.
Myriam, vous nous avez dit, donc, en fait, je l'ai dit dès le début, vous étiez dans cette pièce abri, cette pièce blindée avec vos trois filles qui ont 10, 14 et 16 ans. Comment on explique à nos enfants la situation? Comment on leur explique que dans le pays où on vit, il y a des missiles qui tombent du ciel? Comment on explique ça à des enfants?
Bah, écoutez, c'est pas facile parce que d'abord nous, moi mes filles, elles sont nées, elles ont grandi à Montréal. Alors c'est pas quelque chose auquel on est habitué à Montréal de se dire qu'il y a le voisin d'à côté qui vous tire des missiles et qui veut juste vous tuer, quoi, de façon indistincte, sans vous connaître, sans savoir qui vous êtes, sans vous connaître du tout, quoi. Ça c'est déjà une difficulté en plus par rapport au reste de la population, pour tous les gens qui ont immigré dans ce pays, et puis surtout d'endroits aussi paisibles que le Québec. Alors ça déjà c'est compliqué. Dans les écoles, il y a quand même un apprentissage dans les écoles. On leur apprend à vivre avec cette menace. Ils font des tests régulièrement, vous savez, un petit peu comme les tests qui ont commencé à être faits dans les écoles au Québec pour les tireurs fous. Oui. Ben, on a beaucoup de tests comme ça ici pour en cas d'attaque terroriste. Donc ils sont préparés à l'école. Et puis sinon à la maison, ben on leur explique, on essaye d'être le plus calme. Mais je vous avoue que en tant que parent, en tant que mère, c'est pas facile là en ce moment parce qu'on sort tout juste d'une année quand même plutôt épuisante et éprouvante comme tout le monde dans le monde entier avec une année Corona. On s'est fait enfermer quand même trois fois. On a eu trois confinements ici. L'économie a pris un coup sévère. Et puis nous, les écoles ici ont été fermées. Moi, ma fille de 14 ans n'a pas eu d'école du tout, c'est-à-dire uniquement par Zoom. Depuis le 15 septembre jusqu'à là, il y a à peine un mois, quoi. C'est-à-dire qu'elle est à peine revenue à l'école. Et donc on est déjà sur un terrain qui est assez difficile. Et ça, c'est pas simple parce que dans les familles en ce moment, c'est pas facile. On se retrouve une fois de plus à être enfermé à la maison. Et puis vous savez, je vais vous dire aussi ce qui est un petit peu difficile, c'est que il faut leur apprendre aussi à ne pas haïr. Parce que c'est difficile de quand on est un enfant de se dire ben je le connais pas, j'ai jamais vu et puis il veut juste me tuer et puis ma vie elle est complètement bouleversée, je peux plus aller voir mes copains, mes copines, je peux plus sortir parce qu'on sort pas là en ce moment. On sort de façon sporadique pour aller se ravitailler pour voilà, mais c'est difficile de leur expliquer aussi qu'il faut surtout pas tomber dans la haine de l'autre parce que c'est ça le but, quoi. Je veux dire, c'est le but des terroristes, c'est que tout le monde se haïsse, et puis c'est ce qu'ils essayent de faire. Vous savez bien qu'il y a des émeutes en ce moment dans notre pays de part et d'autre, et c'est ce qui est pour moi le plus inquiétant, je vais vous dire, même plus que les roquettes.
Plus que ces émeutes, donc, vraiment où les gens viennent au point, en fait, où des armes, il y a vraiment des affrontements dans les rues entre des Juifs et des Arabes. Ça vous inquiète plus pour l'avenir d'Israël et pour l'avenir de vos filles que les tirs de roquettes?
Ouais, complètement. Parce que vous savez, le Hamas, c'est une organisation terroriste qui préfère dépenser des millions de dollars. Vous savez combien ça coûte? Je suis pas très bonne sur l'argent. Désolée de rompre un cliché antisémite, mais je suis pas très forte avec ça. Mais c'est à peu près environ 50 000 dollars une roquette. Vous imaginez le nombre d'argent qui est parti en fumée là. Alors que je pense que la population de Gaza aurait peut-être plus besoin de mettre cet argent dans l'éducation, dans les infrastructures, dans les écoles, plutôt que ça. Mais le Hamas préfère se prélasser dans leur argent, se faire des jets privés et des palaces et laisser leur propre population. Et puis surtout maintenant, aller exciter les Arabes israéliens qui vivent ici avec nous, parce que c'est un petit peu ça l'histoire quand même. C'est que derrière, en fond, il y a évidemment une histoire politique. C'est qu'il devait avoir des élections dans l'autorité palestinienne, qui n'avait pas eu depuis 16 ans, depuis 2004. Et quand Mahmoud Abbas Abou Mazen a compris que il risquait de ne pas être réélu, parce que le Hamas risquait de rafler toutes les voix. Il faut savoir qu'il n'y a pas de véritable démocratie, donc toute possibilité d'opposition au système corrompu de Abbas, la seule alternative pour eux, malheureusement, c'est le Hamas, parce que c'est les seuls qui sont vraiment organisés. C'est pas parce qu'ils veulent absolument se retrouver dans les bras d'organisations terroristes qui vont les rendre misérables. C'est parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres alternative. Donc les élections ont été annulées. Et du coup, là, le Hamas essaye de montrer aux Arabes israéliens et aux Palestiniens de Cisjordanie que ce sont eux les seuls représentants du peuple palestinien. Donc ils essayent de semer la zizanie. Le problème, c'est que c'est une organisation terroriste. On finira par en venir à bout. Il y aura un moment où on finira par venir à bout de cette organisation terroriste. Le problème, moi, ce qui m'importe plus en tant qu'être humain, c'est les humains. Et moi, j'habite dans une région qui est au-dessus de Tel Aviv, comme vous avez dit, qui est une région où très calme. Oui. C'est une région paisible, c'est des vergers. C'est pas, il y a pas de tension dans ma région. Il y a plein de villages et de villes arabes tout autour. Les Arabes viennent travailler dans ma ville et aux alentours. Il y a des villes à côté qui sont des villes ce qu'on appelle mixtes, où il y a des Arabes et des Juifs. En temps normal, il y a pas de tension, quoi. Je ne connais pas la tension. Quand je regarde les informations extérieures, ça me fait toujours rire, parce que c'est pas mon pays, c'est pas ma réalité en tout cas. Ici, je dis pas que tout va bien et que c'est magnifique, hein. Je suis pas une propagandiste. Non,
mais vous parlez de votre expérience, voilà.
Oui. Exactement. Voilà, les commerçants en bas de chez moi, ma pharmacie, les médecins. Enfin, je veux dire, on vit ensemble et on vit parce que c'est des gens comme nous, quoi, qui veulent juste vivre leur vie de famille et qui se lèvent pas tous les matins en se disant comment je vais pourrir la vie de mon voisin, quoi. C'est tout. C'est ça la base de la paix. C'est pas un traité ou des politiques qui vont s'asseoir autour d'une table pour signer un traité. C'est pas ça la paix. La paix, c'est les gens qui vont la vivre. Et là, le problème, c'est que là, il y a de la zizanie à l'interne et que il y a des jeunes excités qui représentent pas, je sais bien qu'ils représentent pas la majorité de la population arabe, de la même façon qu'hier on a vu des scènes absolument ignobles pour nous de juifs qui s'en prenaient aux arabes, qui répondaient à ce qui s'était passé la veille, où on était tous catastrophés de regarder des gens qui vivent avec nous. On parle d'arabes israéliens, c'est une autre réalité. Je veux vraiment que les gens comprennent que ça n'a rien à voir. C'est des gens qui vivent avec nous, avec qui on travaille, avec qui on vit tous les jours. On prend le bus avec eux, on va au café. Ça n'a rien à voir. C'est très très loin de tout ce que les soi-disant, excusez-moi, mais beaucoup de journalistes que je lis encore, puisque j'ai toujours un pied au Québec.
Oui, bien sûr.
Par mon cœur. Quand je lis les informations, quand je lis les soi-disant analyses de soi-disant journalistes, je me dis mais venez ici, quoi, arrêtez. Je dis pas que c'est le pays de paradis, mais ça n'a rien à voir, c'est pas ma réalité. Je parle aussi avec des âmes, mais de quoi ils parlent, quoi. On n'en est pas là. Et le problème aussi de tout ça, c'est que nous, par contre, on est condamnés à vivre ensemble. On doit vivre ensemble. C'est tout. Nous, on partira pas. Ça faudrait aussi que le message passe une bonne fois pour toutes. Les Juifs partiront pas, ok. De la même façon que les Arabes ici ne partiront pas non plus, parce qu'ils sont autant chez eux que nous sommes chez nous. Donc il faut qu'on vive ensemble. Et ce genre d'émeutes, qui sont évidemment pilotées par des mouvements racistes de part et d'autre et d'extrêmes qui n'ont aucune solution à apporter après, qui veulent juste monter comme ça, faire chauffer les braises, comme tous ces gens qui essayent depuis l'extérieur de nous condamner unilatéralement et indéfinitivement pour je ne sais pas quoi, d'ailleurs pour à peu près tous les malheurs du monde. Mais il faut savoir que nous ici, on partira pas, personne ne va partir, qu'on va vivre ensemble. Alors, ce genre
c'est important de le préciser.
C'est très, très
oui.
Inquiet.
très inquiétant.
Oui, parce que, alors évidemment, on regarde... j'avoue qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas voulu allumer la télé. Et depuis hier soir, j'ai arrêté d'allumer la télé parce que c'est assez douloureux de voir tout ça. Et puis encore une fois, moi, j'habite pas dans le sud. Moi, j'ai une minute pour aller. Ça aussi, il faut le préciser. C'est que moi, j'ai une minute, 60 secondes. C'est énorme, la différence. Les gens dans le sud ont 15 secondes. 15 secondes. Vous savez ce que c'est, 15 secondes? Imaginez, chose toute bête, vous êtes aux toilettes. Vous êtes à la toilette, vous êtes tranquille, vous êtes en train de prendre votre douche. Et là, vous avez 15 secondes pour aller vous mettre à l'abri, prendre vos enfants éventuellement, prendre le chat. Voilà, chose toute bête. Vous savez, 15 secondes, c'est énorme. Moi, en une minute, cette nuit, on a eu deux alertes. Moi, j'ai pas eu le temps d'aller prendre mon chat, par exemple. C'est pas très, très grave. Je suis bien consciente que par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment, mais je veux que les gens comprennent un petit peu la réalité qu'on vit, qui est très, très loin de tout ce qui est décrit dans les journaux et les plateaux télé de gens qui sont tranquillement assis sur leur salon, dans leur salon, et qui donnent des conseils aux gens qui vivent ici. Ici, on est tous chez nous, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, il faut qu'on va devoir faire un travail, je ne sais pas quand ça va commencer, je ne sais pas quand cette guerre va se terminer, parce que c'est quand même une guerre, mais qui est excessivement pénible, parce qu'en plus, elle arrive après cette année aussi éprouvante pour tout le monde. Mais vous savez, il y a deux semaines, il y a eu un terrible accident dans le nord d'Israël à l'occasion d'un pèlerinage religieux.
Oui, tout à fait. Voilà. Oui. 44 morts. Ouais.
Où il y a 45 morts et principalement des enfants. Ça a été une tragédie nationale. Et vous savez quoi? C'était en plein Ramadan. Et c'était dans le nord, Galilée. Et donc, il y avait beaucoup de villes et villages arabes tout autour qui sont venus, eux, qui étaient en train de jeûner. Ils étaient en plein jeûne, en plein Ramadan. Ils sont venus apporter aux familles qui venaient chercher dans les... Voilà. Ils sont venus leur apporter à boire. Ils sont venus leur apporter à manger. Je veux dire, pendant le corona, on a vécu des choses qui étaient très douloureuses, mais où on a vu qu'on était ensemble, voyez. Maintenant, c'est sûr que les extrémistes de tout poil et ceux qui veulent pas qu'on soit là, ça peut... Ils peuvent pas supporter cette vision de nous pouvant vivre
Myriam, ensemble. Oui, je trouvais ça très important de vous parler aujourd'hui. Je peux juste vous dire bon courage pour la suite des choses. Bon courage aussi à vos filles de 10, 14 et 16 ans. Donc, je sais pas comment on dit courage en hébreu, mais je vous le dis en français. Myriam Azeghi Albouax, dont vous nous parlez en direct de Ra'anana, dans le centre d'Israël, pas loin de Tel Aviv. Vous avez passé donc la nuit dans cette pièce abri, cette pièce bétonnée pour vous protéger des tirs de roquettes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler aux auditeurs de Cube Radio aujourd'hui.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci infiniment.
Bon courage. Merci Myriam.